carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Marie-Laure Croisier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici à l'exposition Tout Couleur qui a lieu jusqu'à mi-juillet 2008 à l'espace Sandowski à Boulogne-Billancourt. Vous nous faites le plaisir de nous donner quelques explications, bien sûr, sur les artistes que vous présentez ici. Pourquoi avoir donné ce nom de Tout Couleur à votre exposition, Marie-Laure Croisier ?
Je tiens d'abord à me situer dans ma généalogie. Je suis, ne l'oublions pas, donc franco-sénégalaise, originaire de l'île de Gorée. La famille est de Gorée. Et j'appartiens à ce pays merveilleux qu'est le Sénégal. Et quand je parle de Tout Couleur, je fais référence aux tribus nomades du nord du Sénégal, qui s'appelaient les Alpoular, et qui étaient des gens qui se déplaçaient au gré de leurs envies, donc un monde de gens libres, au gré de leurs envies, donc le long de ce fleuve Sénégal, donc qui couvre beaucoup de pays, c'est-à-dire le Mali, l'Empire Mandingue, la Mauritanie, la Guinée. Puis alors j'ai trouvé cette sonorité, puis employer un monde tout couleur, à un moment donné, on parle d'éclatement, les gens ne se parlent plus. Il me semble que nous sommes tous maintenant dans une aventure ambiguë. Je ne parle même plus d'un monde métis, parce que nous dépassons ce langage de métis, mais c'est un monde de toutes les couleurs, où nous sommes tous mélangés. Et nous devons vraiment créer cette fraternité autour de toutes ces couleurs du monde, en fait. On est blanc, on est noir, on est jaune, on est rouge, on est de toutes les couleurs, voilà. Donc il y a une notion de spiritualité dessus, et surtout amener les gens à s'interroger sur cette tribu culturellement très affinée du nord du Sénégal, de la région de Saint-Louis, aussi dont je suis originaire aussi de par ma mère.
Alors, Tout Couleur, effectivement, c'est aussi une multitude d'artistes qui sont africains, mais pas seulement, également vietnamiens, français, hollandais, donc un mélange des cultures. Nous sommes devant une première œuvre, Bleu Clin, de Jacques Bosser. Est-ce que vous pourriez nous la détailler ?
Ben évidemment, Jacques Bosser, je suis tombée totalement, il y a à peu près une vingtaine d'années, amoureuse de cette œuvre, je ne sais pas, elle m'inspirait les murs de Gorée. Il y a ce bleu clin, parce que je suis très, dans ma toute prime enfance, j'ai beaucoup travaillé à la couleur du bleu. Le bleu indigo que ces femmes mettaient dans le linge pour le blanchir. D'ailleurs, beaucoup de mes artistes utilisent le bleu, ce fameux bleu de clin. Et Bosser, donc, m'a émue, quoi. Vous savez, une œuvre d'art, c'est avant tout un coup de foudre. Et au-delà du coup de foudre, vous rencontrez l'artiste. Et quand vous entrez dans l'univers de l'artiste, vous vous rendez compte que vous avez une parenté spirituelle avec celui qui a conçu l'œuvre. Parce que l'œuvre, c'est avant tout un espace de sacré. C'est-à-dire que l'artiste qui crée dans un univers, dans un monde parallèle. C'est un monde, l'autre monde, on pourrait l'appeler ainsi, l'autre monde. Il nous fait passer un message. Alors on l'entend ou on ne l'entend pas, on décrypte ou on ne décrypte pas. Il faut dire qu'en tant qu'amateur d'art, au sens où le prévoyait Rilke, que je le dis bien, pour moi, les œuvres d'art sont des messages que les artistes nous font passer avant même que l'œuvre arrive à maturation. Ils sont déjà dans cette disposition de créativité. Alors évidemment, sans dictature aucune, c'est-à-dire qu'un artiste est libre de créer comme il le veut, quand il le veut et quand il le décide. Et ça, c'est un dernier bastion de liberté. Quand toutes les civilisations disparaissent, il reste encore ces œuvres d'art qui sont là pour témoigner de la vie d'un artiste sur Terre.
Alors poursuivons, si vous voulez bien, voilà. Sur la cinquantaine d'œuvres que vous présentez ici à l'espace Sandowski. Poursuivons sur ce bleu, justement, ce bleu clin. Voilà. Nous nous rapprochons petit à petit vers un autoportrait.
Voilà.
Sous forme un peu de masque, totem.
Oui. Qui est un autoportrait, comme vous voyez, c'est une œuvre de Barbara Prezzo, donc qui est originaire, comme par hasard, de l'île de Haïti, qui est une artiste pour moi aussi fondamentale, puisque vous avez une autre œuvre que je vous présenterai tout à l'heure, qui est noir et blanc. Mais cette œuvre est un autoportrait, elle se représente comme égyptienne. On pourrait appeler ça l'art du Fayoum. On découvre des artistes éthiopiens qui peignent exactement à la manière de Barbara. Et Barbara, là aussi, a utilisé ce bleu clin, qui correspond au bleu des vitraux. Il y a aussi quelque chose de très sacré. L'attitude est une attitude digne. Ce regard égyptien qui regarde vers un ailleurs, avec cette dignité, cette tenue de toutes ces belles femmes qui étaient des Égyptiennes, ces femmes de Somalie, d'Érythrée, d'Éthiopie, évidemment. Donc voilà, cette œuvre est une œuvre aussi très importante.
Elle a travaillé sa toile, elle l'a découpée.
Ah oui, elle l'a découpée, c'est la découpe qui est importante. C'est une œuvre qui n'a pas de cadre. Vous l'encadreriez, vous la limiteriez. Alors, c'est une œuvre qui est en pleine expansion. C'est une œuvre libre, quoi, libre de cadre. Surtout pas de cadre.
You said you do it, promise to make good. So far, nothing. You came to see me. It's not what we need. Too late, too late.
Là, nous sommes comme dans un dédoublement d'Andy Warhol.
Ah oui, alors là, c'est un artiste aussi. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous majeurs, parce que bon, ils sont majeurs parce que je les aime et qu'ils ont attiré mon attention. Donc, ce sont mes enfants. Hein. Ce sont des artistes qui m'ont permis d'évoluer à leur côté. Alors, Vincent Mickey, qu'on se dise a été longtemps la main de Shishlevich, ce grand affichiste polonais, et en même temps créateur. Hein. Donc il a un sens de la répartition de l'espace. Il y a un côté un peu narcissique puisque c'est son autoportrait qu'il reproduit. C'est un tamponnage, une œuvre tamponnée. Je l'ai acheté à la chapelle de la Salpêtrière il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je suis tombée en arrêt devant l'immensité et la beauté de cette œuvre. Elle seule, elle représente pour moi tout un auto-vécu parce que c'est son autoportrait. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que Vincent Mickey est en constant voyage entre Afrique, le monde. Il est blanc mais noir, donc il est très sénégalais. Il aime l'Afrique, il vit au rythme de l'Afrique. Il est originaire de Cajac et surtout, il travaille dans son atelier dans une discrétion totale. C'est un artiste pour moi aussi extrêmement important.
Un totem, c'est un Français qui l'a réalisé.
Oui.
Elle a avec la notion pareil du récupart.
Tout à fait.
Donc technique pareil.
Ah oui, elle a aussi, enchantée de cette œuvre qui est une œuvre de Sylvain l'écrivain, qui était du reste repérée dans Télérama. Elle a fait la une de Télérama. Celui qui avait écrit l'article avait mis l'art d'accommoder les restes.
Alors on peut peut-être la détailler. C'est un
les fêtes de bidons, d'ampoules, d'un bric-à-brac d'objets ramassés récupérés dans la rue. Et ben
qui donne un visage un peu interloqué.
Tout à fait. Vous avez raison. Plein d'humour, hein, comme
et c'est vous. Également ce qui ressort, je trouve, dans votre exposition. C'est aussi tout cet humour, cette dérision, en traitant de choses parfois sociales. Hein. Il y
tout
a une œuvre, notamment, qui s'appelle Offre d'emploi.
Ah
peut-être
oui.
Qu'on peut se diriger vers
ah oui,
elle.
Tout à fait.
Alors, je crois que l'artiste parle d'acte social plutôt que de réaliser
absolument,
une œuvre.
Absolument.
Qui donc s'appelle Moussa Sakho.
J'ai un amour de prédilection pour cet homme qui est d'une gentillesse exquise. Et comme vous pouvez le constater, cette œuvre est créée sur une fenêtre jetée dans les décharges de Gorée, parce que Gorée est plein de choses jetées, mais rarement longtemps, parce qu'il y a toujours un récupérateur qui transforme le déchet en œuvre. Ça, il faut le savoir, en Afrique, nous sommes des écologistes nés. Hein. Alors cette œuvre, je l'ai achetée en 2002 à une biennale de Dakar, alors que j'étais dans l'île de Gorée. Je suis tombée en arrêt devant la pièce. Elle était lourde à porter, mais je me suis offert le luxe de la porter en bagage accompagné en faisant surtout attention de ne pas casser mon fixé sous verre parce que le fixé sous verre décrypte, il y a tout un message social, ça s'appelle offre d'emploi, c'est amusant, enfin elle est...
Avec des personnages dessinés un peu naïfs et
tout
des
à fait.
Coups surdimensionnés.
Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait, ouais. Naïfs, surdimensionnés, mais qui sont porteurs d'un message. Alors surtout, ça me donne l'opportunité de me renvoyer à un travail que j'ai fait en 84 où à l'UNESCO, je rendais un hommage au maître du fixé. Je disais, en parlant de Goran Bing, il n'est pas naïf. Il nous restitue notre mémoire collective et, en provocation, n'a-t-il pas le trait de Matisse ? Car sachez bien que dans le fixé sous verre, il n'y a aucune possibilité de repentir. Hein. L'artiste peint en direct à l'envers du verre.
Alors, nous nous dirigeons vers des visages,
ah oui.
sombre.
Oui.
Alors je ne sais pas si il faut le voir comme quelque chose de sombre. C'est un artiste hollandais.
Oui, c'est un artiste hollandais que j'aime profondément, qui s'appelle Hans Boeman. À la maison, je l'ai installé à côté de masques africains. Et Hans Boeman s'est passionné pour le continent africain. Il fait de fréquents va-et-vient entre le Cameroun, le Mali, le Burkina. Il est pour moi un blanc-noir aussi. Vous voyez, il est un homme, un artiste qui a trouvé inspiration dans l'Afrique, au même titre que Barcello, par exemple. On voit un Barcello qui nous fait un travail remarquable, qui s'inspire d'Afrique. Donc vous voyez, les artistes travaillent avec leur environnement. L'artiste doit être en parfaite adéquation avec son environnement pour créer. Voilà.
Là, il travaille essentiellement sur les visages.
Sur les visages. Alors, quelle est sa matière? Je ne sais pas. Ce sont tous des alchimistes.
Oui.
Quel procédé emploie-t-il? C'est leur secret. Donc, revenons à l'époque du Moyen-Âge, où chacun avait son secret, sa mixture. Alors, des fois, ça prête à conséquence, parce que certains utilisent des matériaux dégradables. On se trouve, tiens, justement, devant une œuvre dégradable, mais dégradée parce que l'artiste a utilisé des pigments. De temps en temps, l'œuvre peut se dégrader, mais tant mieux, j'adore cette notion de dégradation. Vous voyez, devant cette œuvre de Hussein Oussa, qui s'appelle Mur de Gorée, ben, pour moi, c'est les murs de Gorée.
Nous boko khalat boko giskis boko yene sans frontière bolesnu am am teligue.
Justement, vous parliez d'œuvres dégradées. Il y a une œuvre qui, d'ailleurs, fait office d'affiche,
oui,
de votre exposition.
Ah oui. Ça, c'est l'œuvre de Viediba. Alors là, on est devant ce qu'on appelle le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Hein.
Donc, ce sont des bandelettes,
oui,
c'est ça?
Oui, des bandelettes.
Vous pouvez nous la détailler, cette œuvre?
Alors, toujours notion du fil. La bandelette, parce que nous sommes au Sénégal un peuple de tisserands. Hein.
Oui.
C'est vraiment, d'ailleurs, cette notion du fil est très, très, très importante en Afrique. Non, mais là, cette œuvre est faite de bandelettes cousues. Toujours cousues, parce que l'artiste met toujours la main à la pâte. Il ne se contente pas de peindre sur une matière imposée. Il se fabrique sa matière lui-même. Donc, c'est une œuvre qui est comme un pansement. Il y a des bandelettes qui ont trempé dans des bains sacrés. Et comme vous pouvez le constater, l'œuvre est faite de bandelettes et pourrait rappeler les palissades de nos murs africains qui suintent des fois la joie, mais suinte aussi la souffrance. Le détail de l'œuvre m'intéresse fondamentalement parce que là, vous avez comme une œuvre pensée et qui a souffert aussi parce qu'elle est dégradée
elle
s'est dégradée, mais j'adore cette notion de dégradation car elle renvoie au symbole de la vie, de la mort, du vieillissement, du pourrissement. Et ça, pour moi, cette dégradation est fondamentale dans l'œuvre. Et aussi, en accrochage, on est obligé de trouver un point d'équilibre parce que l'artiste a créé une œuvre qui est une œuvre qui doit s'installer en la rééquilibrant.
Mais vous voulez dire qu'il y a un poids,
il y a un
plus
poids,
important
voilà,
d'un côté
voilà.
que d'un autre. D'accord.
Et on doit trouver son point d'équilibre quand on est devant cette œuvre.
Alors cette œuvre de Viediba, elle fait face à une représentation terre cuite. Est-ce un couple?
C'est une rencontre.
C'est une rencontre.
C'est une rencontre. Là, vous avez une œuvre de Etier Poulsen, originaire d'Éthiopie, comme vous pouvez voir. Cette œuvre est une œuvre craquelée qui traduit tout à fait la souffrance de ces terres non irriguées d'Afrique. Alors, elle a sa méthode aussi de cuisson. Mais ce qui m'a attiré dans l'œuvre, c'est malgré cette terre craquelée mais fort belle, qui aspire à avoir, recevoir une goutte d'eau pour ensemencer toute. Bon, elle parle de ce qu'elle a vécu dans son enfance. Vous avez quand même des regards qui se croisent et des êtres qui s'aiment. Et là, il y a un regard croisé qui est absolument sublime. C'est une œuvre intouchable. Hein. On ne peut pas y toucher, on la regarde avec les yeux et on l'aime avec les yeux et on essaie de saisir le message important qu'elle nous livre.
Je veux assouplir ton cafard, mon amour, et l'endormir. Je murmurais ce verre de blues pour l'endormir, pour l'endormir. C'est un blues mélancolique, un blues nostalgique, un blues indolent et lent.
Alors, Pierre Our, alors là, c'est une œuvre qui n'a pas de titre. Alors justement, l'exercice, est-ce que vous pourriez... En plus, là, la lumière arrive.
Ah, elle est
donc
coquette.
Il y a beaucoup d'ombre.
Oui.
Est-ce que vous pourriez essayer de nous la détailler, cette œuvre?
Alors, cette œuvre aussi, je suis tombée totalement, mais totalement subjuguée par le travail de Pierre Our, acheté à la Salpêtrière, à la chapelle de la Salpêtrière. Cette œuvre m'a rappelé les cimetières musulmans de Dakar. D'ailleurs, vous voyez, elle flirte, là. Elle est en train de se livrer, de se dénuder, là. voyez, un rayon de soleil qui tombe sur l'œuvre et je me trouve exactement devant, comme devant le cimetière des pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal. Voilà, cette œuvre me fait penser à cette... C'est une œuvre d'émotion, une œuvre de complicité, une œuvre silencieuse, parce que Pierrot est un artiste immense, mais silencieux, qui parle peu de lui, mais qui pour moi est un artiste aussi majeur, majeur, majeur de notre époque. Il vit et travaille à Nice.
Donc, tout de blanc.
Tout de blanc. Une œuvre très, très monacale.
Et
très monacale.
Une surface, bien sûr.
Oui, oui. Magnifique, oui. Magnifique pièce. Vraiment.
Ces œuvres reflètent aussi la vie africaine. Nous nous dirigeons vers un couple africain.
Oui. Cette pièce, c'est une pièce qui est la première pièce d'une installation qui en comporte 7. Alors, Chérouba est un artiste immense, immense, immense sénégalais. Et j'ai pris une option pour le couple parce que j'aime la monogamie.
Et les autres représentations.
Alors la deuxième pièce, c'est un couple à 3, un couple à 4, un couple à 5, à 6 et à 7. Mais j'ai pris le parti pris de prendre la première installation. Voilà.
Que représentent ces morceaux qui sont devant ces couples?
Ce sont des offrandes. Vous voyez, chacun vient avec son offrande, vient dans la cour, le couple est là. Donc c'est le couple qui écoute, parce qu'en Afrique, on écoute beaucoup. Et ces petits morceaux de bois sont le symbole de ce que l'on apporte quand on arrive dans une maison.
D'accord.
On s'incline devant le chef de maison, on est accueilli parce qu'on a le sens de la teranga de l'accueil, mais on dépose toujours un présent dans la cour qui vous accueille.
Est-ce que ces personnages sont sereins ou est-ce qu'il y a quelque chose comme de la mélancolie avec ces bras ballants,
grande gravité, hein. C'est très grave, c'est une œuvre extrêmement grave. Et quelque part, il y a beaucoup de dignité. Il y a des non-dits, évidemment, c'est au spectateur à percevoir ce que dit l'œuvre. Puis comme là aussi, l'œuvre est dégradée, elle a souffert, elle souffre. Vous avez des pansements, des bandelettes qui sont là. Ça traduit bien l'émotion africaine, vous voyez. Ce n'est pas une œuvre neuve, c'est une œuvre qui peut être abîmée, mais qui est digne. Mais on est avec un couple qui est en train de s'interroger sur le devenir de l'Afrique. Ce message, l'artiste le fait passer, mais de façon remarquable. Qu'allons-nous devenir? Qu'est-ce que ce continent? Ils ne sont pas les bras ballants, mais ils sont dans l'attente de quelque chose qui doit arriver et se passer.
Pareil, là encore, une notion un peu de récupart.
Oui, Gérard Kenom, alors là, beaucoup d'humour aussi. C'est une œuvre sans titre, mais elle parle d'elle-même. Vous avez ce baigneur qui est un baigneur blanc. Bon, il l'a peint, il en a fait un baigneur noir. C'est un noir aux yeux bleus. C'est mignon. Et il a travaillé donc sur des tables de divination, puisqu'il est du Bénin. Et l'œuvre est pour moi d'une grande beauté. Elle est silencieuse aussi. Et elle fait réfléchir à tous ces jouets qui sont jetés dans les poubelles, qui sont dégradés, et lui en a fait une œuvre d'art, il l'a ramassée, et il a tout un enseignement, puisqu'il a tout un travail sur les jouets jetés.
Oui, de ce fait, tout un message.
Ah oui, tout un message à partir des
les
jouets.
De consommation.
De consommation, voilà, les jouets que l'on n'utilise pas, alors qu'en Afrique, les jouets sont... Les enfants se fabriquent leurs jouets eux-mêmes, hein, et on ne jette jamais un jouet. Et ici, je vois les poubelles pleines de jouets, et de... Voilà.
Vous parliez justement tout au long de cet enregistrement de métissage, de rencontre des cultures. Là, nous avons l'exemple d'une artiste vietnamienne qui vit en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, qui est partie, qui s'appelle Monique Leweller, qui est vietnamienne. Alors, elle s'appelle Kaidine, hein, parce qu'elle a changé de nom. Elle a tenu à reprendre un nom beaucoup plus ancré dans la tradition, sa tradition à elle. Alors, Monique vit en Côte d'Ivoire depuis à peu près une quarantaine d'années. Elle voyage. Elle voyage à travers la planète et elle travaille beaucoup avec le Japon. Et c'est une grande spécialiste aussi du land art.
Donc là, l'œuvre que vous avez...
C'est un bronze sculpté, enfin gravé.
Gravé.
Avec toujours cette symbolique donc, du caméléon, référence à Mpateba. Ces portes des grandes, il y a toute la symbolique africaine qui est là. Et Monique Leweller, pour moi, c'est une artiste qui a toute la sagesse aussi de cette Asie, qui a été à la rencontre de l'Afrique. Elle a été mariée avec un Européen. Elle vit en Côte d'Ivoire, elle travaille en Côte d'Ivoire. Et ce qui définit Monique Leweller, c'est que c'est une artiste qui est généreuse. Elle a ouvert son atelier de fonderie à des petits nomades qui n'avaient pas de possibilité de fondre. Elle a fait un travail avec des petits-enfants des écoles magnifiques. Une artiste complète, hein, totalement ouverte au monde et généreuse de surcroît.
long vers...
Kurajek, alors.
Kurajek. C'est un autoportrait.
Oui.
Animal ?
Oui, un petit peu à la Dali, un animal un petit peu surréaliste.
Alors c'est un artiste qui réalise aussi beaucoup de choses à partir de squelettes.
Tout à fait, oui, tout à fait. Il est animiste en fait. C'est, oui, tout à fait. C'est un artiste qui a été très, très, très américain, donc USA. Il a un musée aux États-Unis. Il a un aspect très fétichiste, hein, il est très fétichiste. Et moi, je suis tombée totalement en arrêt devant ce travail qui est un travail d'un homme qui a vécu dans ce qu'on appelle la grande tradition des animistes africains. Il m'a dit, mais Marie-Laure, je ne suis jamais allée en Afrique. Mais toute cette impulsion de mon travail est née à partir d'œuvres d'Hardy Ier. Donc c'est un gros collectionneur aussi d'Hardy Ier. Vous voyez, donc, à mon insu, je suis tombée en arrêt toujours sur des artistes qui sont des artistes s'étant inspirés de l'Afrique, ayant, circulé.
Patrice Girard, donc vous disiez l'homme et son enfermement.
Mais l'homme et son enfermement, vous voyez, c'est un monde de béton. Vous avez des poissons enfermés. Alors avec ce manque de respiration, donc...
Alors c'est très particulier, c'est un monde à la fois de rondeur, oui, et en même temps de rigidité.
Tout à fait.
Où les choses ne bougent plus, elles sont établies.
Tout à fait. Ben, vous savez, on est souvent enfermé dans des masses de béton. Hein, mm-hmm. Et dans la non-communication, ça traduit totalement une non-communication, une force d'inertie, parce qu'à force d'être enfermé dans son petit carré, c'est un enfermement total. Et l'artiste, pour moi, je l'ai perçu de façon extrêmement forte. Elle est esthétiquement très belle, mais puis vous voyez, c'est un rond, mais un rond qui est pris entre deux plaques de verre. Il y a comme quelque chose de très sacrificiel là-dedans. Hein. C'est très fétichisé aussi hein, comme œuvre. Hein. Et l'artiste est en train de nous envoyer un message très très fort pour donner à l'homme le sens du sens, ne pas être transformé en des hommes enfermés qui ne peuvent plus agir. Vous voyez, emmurés dans du béton. Voilà, c'est ça, emmurés dans du béton.
Sur quelle œuvre vous souhaiteriez terminer ?
Bien écoutez,
il y en a beaucoup.
Mais je les aime toutes, c'est ça mon problème. Oui. C'est que déjà j'étais très frustrée. J'ai l'œuvre de Irène Boisaubert, puis j'ai aussi cette œuvre de Rose Holzer.
Oui.
Alors Rose Holzer est une jeune femme qui a vécu au Zaïre il y a à peu près une trentaine d'années, donc française. Et quand elle est arrivée là-bas, retrouvant son compagnon, elle m'a dit, je suis arrivée en Afrique, je voyais des embrasements, des feux de brousse partout, et puis une foule qui circulait comme ça à travers ces feux de brousse. Et en fait, cette pièce s'appelle l'Exode, et c'est un monde, c'est un micro-monde, une restitution de ce qu'elle a vécu en Afrique.
Donc des couleurs rouges et noires,
rouge et
avec
noir,
des personnages comme ça,
qui se déplacent comme ça, comme des petites... Et beaucoup de mes artistes utilisent ce petit personnage qui est un personnage qui est un humanoïde. Hein.
Oui, oui.
Je ne vais pas dire que... Oui, c'est un humanoïde qui se déplace, on ne sait pas comment.
On dirait que ces humanoïdes
oui.
Se déplacent sous forme de flamme.
Voilà. C'est exactement ça, voilà. Deux flammes attirées par le feu, la lueur du feu. Mm-hmm. Et le rougeoiement, ça peut être aussi des guerres, hein, parce que cette œuvre aussi est une œuvre extrêmement grave. Ça peut être l'embrasement aussi d'un continent africain, l'embrasement de la planète Terre. Espèce d'éclatement d'hommes qui sont envoyés dans l'espace. Donc c'est une œuvre extrêmement grave et s'appelle l'Exode de Loeller.
Nous vous invitons à visiter l'exposition d'art contemporain Un monde tout couleur. Elle a lieu jusqu'au 14 juillet 2008 à l'espace Marcel Landowski à Boulogne-Billancourt. L'entrée est libre. Retrouvez sur notre site canalacademy.com le texte et les photos de l'exposition qui accompagne cette émission. Merci à Marie-Laure Croisier, propriétaire de la collection, véritable promoteur du dialogue des cultures à travers l'art. Et merci à vous, auditeurs internautes, de nous avoir suivis pour ce voyage coloré à travers les continents. À bientôt pour de prochaines expositions sur Canal Académie.